L'invité de la rédaction avec Charlie Pless sur Radio Alpa.
Ce mois de septembre, c'est le mois de la santé sexuelle avec plusieurs temps forts comme la journée internationale du préservatif féminin le 16 septembre, la journée mondiale de la contraception le 26 septembre et très bientôt la journée mondiale de la santé sexuelle. Ce sera ce jeudi 4 septembre. Alors en France, les nouvelles sont un peu ambiguës côté santé sexuelle. D'un côté, la rentrée scolaire 2025 voit apparaître un nouveau programme d'éducation à la vie affective et relationnelle et à la sexualité, ou EVARS. Et d'un autre côté, les jeunes utilisent de moins en moins le préservatif, comme le montre un rapport de 2024 de l'Organisation mondiale de la santé. Cette baisse de l'utilisation du préservatif coïncide avec une augmentation du nombre d'IST diagnostiqués chez les jeunes depuis plusieurs années, selon Santé publique France. Alors, est-ce dû à un manque de moyens ou à un manque d'informations? Et est-ce que le nouveau programme EVARS de l'éducation nationale va permettre d'informer davantage les jeunes? Est-ce que ce mois de la santé sexuelle peut aussi être l'occasion de rappeler les précautions à prendre? Pour en parler, je reçois David Goubil, conseiller conjugal et familial pour le planning familial de la Sarthe. Bonjour. Alors, est-ce qu'il y a un manque de connaissances chez les jeunes concernant le VIH et les autres IST, David Goubil?
On peut répondre de manière simple, oui. Mais je pense qu'il faut être, il faut un petit peu plus avancer dans les, dans cet échange-là pour pouvoir un petit peu, peut-être plus comprendre à quoi ça tient. L'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle reste un sujet polémique, reste un sujet qui a énormément de difficultés à se faire une place dans les enseignements. Et comme dans cet acronyme, on va retrouver des choses comme sexualité, il se trouve qu'on va être au final à la confluence de deux tabous qui vont être autour de la sexualité et de la maladie. Et comme c'est des sujets qui font peur et qui sont tabous, bah en fait, c'est des sujets qui sont délaissés. Et ça fait des années et des années que plein de structures, d'associations, dont le planning, en fait, se battent pour faire reconnaître l'importance. Et on voit bien qu'il a fallu énormément de temps et qu'il faut encore se battre pour que ce soit des sujets qui coulent de source un petit peu.
Donc c'est un tabou qui dure depuis longtemps. Est-ce que ça veut dire que ça a toujours été là, cette méconnaissance des sujets sur la santé sexuelle chez les jeunes, ou vous constatez un recul depuis quelques années?
C'est une constante. Il y a des évolutions, il y a des périodes où il y a mieux, il y a des périodes où il y a moins bien. Je crois qu'actuellement, on pourrait dire qu'on est dans une période de moins bien. Bien que ici et là, on constate qu'il y a des... Il y a des structures, il y a des jeunes, il y a des groupes qui, effectivement, nous montrent le contraire. Donc, c'est toujours un petit peu quelque chose de fluctuant de tirer des conclusions qui pourraient être aussi binaires. Par contre, on voit bien qu'il y a des manques, il y a des carences, et que ces carences, elles ont traversé les générations. Et que, en dépit de l'importance de ces sujets-là, en dépit de ce qu'on soulève comme problématique à travers le monde, à travers la France, on voit bien que c'est des sujets qui peinent à se faire leur place.
En tout cas, ce qu'on constate, c'est qu'il y a quand même une baisse de l'utilisation des préservatifs chez les jeunes. Ça ne peut pas être dû quand même au fait que l'information recule chez cette tranche de la population?
On va dire que l'information autour de la lutte contre les IST, autour de la lutte contre le VIH, pour être très clair, est en perte de vitesse. Aujourd'hui, c'est compliqué de promouvoir une prévention autour de la lutte contre les IST, où on pourrait agiter le loup du VIH qui tue, qui décime. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et comme il y a une baisse très importante, et notamment des financements autour de la lutte contre le VIH, eh ben, il y a de moins en moins de moyens pour faire de la promotion de la lutte contre le VIH. Donc, on se rend bien compte que les personnes qui sont de la génération des années 90-80 ont grandi dans la peur du VIH et donc ont généralisé un port du préservatif comme quelque chose de vital. Les générations d'après n'ont pas du tout eu cette prérogative, ne vivent pas dans cette peur du VIH, et donc on a un abandon de ce préservatif. Et comme il y a un gros manque d'informations autour de l'usage du préservatif, bah, il tombe un petit peu en désuétude, alors que il est hyper important dans les premiers gestes de prévention autour de la sexualité, le port du préservatif.
C'est le meilleur moyen geste à avoir. C'est le meilleur moyen de prévention face aux IST, le préservatif.
Bien sûr, bien sûr. Associé à une bonne information qu'il n'y a pas, le préservatif reste aujourd'hui la seule barrière facile d'accès, facile à mettre en place et qui protège à la fois du risque de grossesse non désirée, mais également des IST.
Est-ce que le coût ne peut pas expliquer aussi cette baisse de l'utilisation des préservatifs parce qu'il faut se les procurer ?
Alors, c'est marrant, c'est une question qui est presque un petit peu, on pourrait presque croire qu'elle viendrait de quelqu'un qui ne connaîtrait pas la donnée, mais il se trouve que depuis maintenant deux ans et demi, les préservatifs sont en accès libre en pharmacie. Il suffit d'en faire la demande, tu rentres dans une pharmacie en fait et tu demandes des préservatifs, tu vas repartir avec une boîte de 12 préservatifs sans avoir déboursé le moindre centime. Si on ajoute à ça les structures qui donnent des préservatifs depuis très longtemps, comme le CPVD à l'hôpital du Mans, qui est le centre de prévention, diagnostic et dépistage, où on peut se faire dépister pour les IST, on peut trouver le planning familial et d'autres associations où c'est très facile de se procurer des préservatifs gratuits.
Oui, donc il n'y a pas d'excuse pour ne pas utiliser le préservatif finalement. Et non. D'ailleurs, le préservatif, comme vous l'avez mentionné, ce n'est pas seulement pour se protéger des IST, c'est aussi un moyen de contraception, mais ce n'est pas forcément le moyen de contraception le plus privilégié chez les femmes là, ouais. En France. Si la pilule a longtemps été hégémonique, maintenant elle est dépassée par le stérilet et l'implant, le préservatif n'arrive qu'en troisième position. A raison donc, ce n'est pas forcément le moyen le plus fiable à ce sujet-là.
Bon, statistiquement, sur le taux d'efficacité, non, le préservatif, par justement le manque d'information, le manque de port par le public, le fait que le public ne soit pas habitué à mettre des préservatifs, eh ben en fait, le problème avec le préservatif, c'est que comme il requiert une intervention humaine pour être bien utilisé, si jamais je ne suis pas formé à l'utiliser, si jamais je ne suis pas habitué à l'utiliser, évidemment, il y a des loupés. Et en fait, ces loupés peuvent avoir des conséquences comme des grossesses non désirées.
Et d'ailleurs, le 16 septembre, c'est la journée internationale du préservatif féminin. Ce n'est pas un objet qu'on croise souvent. Pourquoi est-ce qu'il est si peu utilisé ?
Déjà d'une, parce que c'est connu consécutivement au préservatif externe, masculin. Le préservatif féminin ou interne, c'est un préservatif qui peine à se faire sa place. Et on voit bien, et on est encore une fois un petit peu au bout du truc, quoi. Si jamais on ne fait pas d'information à la vie affective, relationnelle et sexuelle, si jamais on n'informe pas sur le port du préservatif, si jamais on n'insiste pas là-dessus, on voit bien qu'un préservatif comme le préservatif interne, qui n'est pas facile d'approche, même nous, à titre professionnel, quand on fait des animations avec des jeunes, ce n'est pas forcément celui-là qu'on va plébisciter en premier parce qu'on sait qu'il n'est pas simple d'usage. Par contre, il faut en parler. Il faut parler que ça peut être une solution aussi annexe aux préservatifs externes, à d'autres contraceptions. Et on voit bien que le préservatif interne, de par son coût aussi de base, faut savoir que par exemple, même si on peut l'avoir aujourd'hui gratuitement aussi, comme le préservatif externe en pharmacie, notamment gratuitement, si on pense en termes de coût, là où une boîte de préservatif ou un préservatif peut coûter aux alentours de 50 centimes d'euros, il faut compter 7,50 euros en valeur intrinsèque pour une boîte de 3 préservatifs internes.
Alors, j'ai mentionné tout à l'heure les principaux moyens de contraception utilisés par les femmes. On trouve moins facilement les données concernant les hommes. La contraception, elle est toujours aujourd'hui en grande partie laissée à la charge des femmes.
Évidemment, évidemment. Et je continuerai, je suis un petit peu en boucle, mais parce que notre information à la vie affective, relationnelle et sexuelle est pauvre en France, il y a peu de sensibilisation à la contraception de manière générale. Et on voit bien que comme ce sujet a toujours concerné les femmes et que quelque part ça convient bien à tout le monde, eh ben, ce manque d'information fait qu'on promeut assez peu, hélas, trop peu, les moyens de contraception qui pourraient être accessibles aux gars et qui pourraient permettre de partager cette charge mentale, qui est quelque chose de super lourd quand ça dure toute une vie, quoi.
Parce qu'effectivement, il y a quelques moyens de contraception qui existent déjà pour les hommes, comme le slip chauffant, la vasectomie ou l'anneau, mais apparemment, ça ne rencontre pas un grand public. Est-ce qu'on peut espérer peut-être voir une pilule contraceptive masculine arriver sur le marché dans les prochaines années ? Peut-être que ce moyen plus pratique permettrait aux hommes de s'emparer davantage de leur contraception.
On va dire que ce que vous appelez le slip chauffant, ou qu'on pourrait appeler aussi l'anneau contraceptif thermique testiculaire, qui est une méthode qui est extrêmement efficace, mais qui nécessite d'avoir une observance plutôt forte, avec une charge mentale pour le coup portée sur les épaules des gars, je reste une méthode plutôt super efficace. Quant à la sortie d'une pilule qui serait une pilule hormonale ou autre chose pour les hommes, c'est un peu l'arlésienne, quoi. J'ai l'impression que c'est un peu une manière aussi de nous esquiver, nous les gars, de ces sujets de contraception en disant qu'on attend une pilule et que ce sera un petit peu chouette et miraculeux. Je ne suis pas certain qu'il faille attendre la sortie d'une pilule contraceptive pour les gars, pour que nous, les gars, on s'empare de ce sujet-là. Donc, effectivement, il y a des choses qui existent, qui fonctionnent bien, existantes, et qu'il va être grand temps qu'on s'y intéresse et qu'on s'y penche. Mais on voit bien que pour ça, il faut qu'il y ait des prises de position politiques, il faut qu'il y ait des prises de position qui permettent le développement de ces méthodes-là, parce qu'elles font leurs preuves et qu'il ne faut pas attendre encore qu'un énième labo sorte une nouvelle pilule contraceptive pour les gars pour s'enrichir en fait sur le dos, encore une fois, de nos petites épaules, et que cette charge-là soit protégée et partagée.
Et alors justement, vous avez lourdement insisté sur l'importance de l'éducation. Et alors, comme je le disais en introduction, cette année, les élèves du secondaire vont avoir droit à 3 cours sur l'éducation à la vie affective et relationnelle et à la sexualité. 3 cours par an, est-ce que vous pensez que ça peut suffire pour pallier au manque d'information des jeunes, ou est-ce qu'il faudrait des mesures plus structurelles ?
Il faut des mesures plus structurelles. Il y a une loi de 2001 qui, déjà, normalement, obliger les établissements à proposer ces fameuses 3 animations ou 3 temps par année et par élève, et ce depuis le primaire, voire même un petit peu avant des fois, mais en tout cas depuis le primaire, il faudrait qu'il y ait ces 3 séances-là. Dans les faits, cette loi de 2001 n'a jamais été appliquée. On arrive aujourd'hui avec un gouvernement qui a pris cette question-là effectivement à bras-le-corps et qui propose à partir de cette année la mise en place de ces séances. Alors je trouve que c'est super. Il va falloir aider les structures, il va falloir qu'il y ait des moyens qui suivent ces décisions politiques, parce que sans moyens, la mise en place de ces 3 séances-là relève un petit peu, comment on pourrait dire ça, de quelque chose qui va être compliqué à mettre en place. Donc c'est vraiment plein de bonne volonté qu'il faut prendre. Ce programme EVAR, c'est pouvoir parvenir à le mettre en place avec toutes les forces vives. Il faut oublier personne dans la bataille. Il y a des structures qui font ça depuis des années et des années, cette éducation à la vie active, relationnelle et sexuelle, et je pense que ça pourrait être une erreur de faire sans.
Alors, pour ceux qui nous rejoignent maintenant, donc je le rappelle, on est avec David Goubi, le conseiller conjugal et familial au planning familial de la Sarthe. Et donc, au planning familial, l'éducation à la vie affective, à la sexualité et à la santé sexuelle, ça fait partie de vos missions. Est-ce que vous serez présent donc sur ces différentes dates du mois de la santé sexuelle, le 4 septembre notamment, journée mondiale de la santé sexuelle ?
C'est des sujets qu'on porte toute l'année, et ce depuis des dizaines d'années. Et effectivement, on sera présent sur des actions partenariales. On sera présent aussi, comme on l'est depuis des années, en lien avec des projets qui peuvent émaner aussi de la région, sur des projets interassociatifs, interstructures, comme on le fait tout le temps, et que ces projets-là commencent souvent à partir de septembre, ouais, ils nous emmènent jusqu'à mi-décembre, où effectivement il y a aussi d'autres journées internationales, comme la journée mondiale de lutte contre le sida justement, et le VIH, qui clôt un petit peu pour nous cette année, l'année en cours à chaque fois. Donc fin 2025, on sera jusqu'à fin 2025, on sera effectivement sur le terrain pour mettre en place des projets d'information sur la santé sexuelle et de lutte pour promouvoir une éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle pour tous et toutes.
Et donc, on le rappelle, la prochaine date, c'est jeudi 4 septembre, journée mondiale de la santé sexuelle. D'ailleurs, on a parlé de prévention contre les IST, de contraception, mais est-ce que c'est seulement ça, la santé sexuelle, ou est-ce que ça couvre d'autres aspects encore ?
Alors, je pense que si jamais on considérait que ça n'était que les questions anatomiques ou de relations sexuelles ou d'IST, l'éducation à la sexualité, on se tirait une balle dans le pied. Je pense que d'ailleurs, on a pu le faire à pas mal de reprises par le passé. La santé sexuelle, elle est bien plus globale. La définition de l'OMS que je vous laisse retrouver, parce que là, elle ne me revient pas comme ça en tête mot pour mot, mais elle vise en fait un état de bien-être général qui serait lié au fait de pouvoir vivre sa sexualité de manière libre, sans être contraint, sans être soumis à des pressions, et de pouvoir le faire en connaissance de cause et avec le maximum d'informations. Donc cette donnée-là fait que oui, les champs de la relation, les champs de la relation amoureuse, de la relation à soi, de l'estime de soi, me semblent également des champs à travailler, parce que si je veux développer des relations à l'autre, qui soient des relations notamment sexuelles épanouies, je vais devoir avoir compris certaines choses sur la relation à l'autre, sur la relation à moi-même, et que c'est dans un contexte où ces questions-là ont été vues de manière positive qu'on peut effectivement développer les autres champs de la santé sexuelle de manière claire, librement consentie.
Et les sujets qu'on a évoqués ces dernières minutes seront donc développés lors d'un colloque le 30 septembre, c'est bien
tout
ça David
Goubil, ouais.
Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu?
Oui, donc ça, comme tous les ans, le collectif Tout s'explique 72, qui est un collectif de structures et d'associations que vous connaissez peut-être, propose son colloque annuel. Cette année, il se déroulera à Alonne, salle Jean Carmé, et donc ça aura lieu le lundi 30 septembre sur Le Mans, et la veille, en fait, non, le mardi 30 septembre sur Le Mans, et la veille, le lundi 29 septembre, le même colloque est proposé sur Laval. Donc, il est possible de s'inscrire à l'un ou à l'autre, ou aux deux, mais un, ça serait pas mal déjà, et que ces inscriptions se font via notre le Hello Asso du Planning Familial 72. Donc, vous allez sur Internet, vous tapez Hello Asso en un seul mot, Planning Familial 72, et comme ça, vous pouvez trouver le lien pour vous inscrire au colloque, l'un ou l'autre.
Et enfin, cette année, il y a une grosse actu pour le planning familial, puisqu'il fête ses 60 ans.
Tout à fait.
Qu'est-ce qui est prévu pour l'occasion?
Donc, à cette occasion-là, ça sera sûrement sur le mois d'octobre, parce que c'est en octobre qu'a été créé le planning familial 72 en 1965. Et durant ce mois d'octobre, il y a plusieurs événements qui sont prévus. Donc, un petit temps fort dont on garde un petit peu le secret, mais on pourra un petit peu promouvoir tout ça via nos réseaux, via nos réseaux de communication et réseaux sociaux. Et on aura aussi une semaine à 15 jours de portes ouvertes pour permettre à tout public de venir découvrir la structure, se familiariser avec nos locaux, aussi les personnes qui y travaillent, et pouvoir poser les questions et effectivement faire de l'information via affective, relationnelle et sexuelle aux personnes qui auraient des questions.
Et je vous remercie David Goubil, conseiller conjugal et familial au planning familial. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Alors on le rappelle, ce mois de septembre, c'est le mois de la santé sexuelle avec trois dates importantes. Ce jeudi 4 septembre pour la journée mondiale de la santé sexuelle, la journée internationale du préservatif féminin le 16 septembre et la journée mondiale de la contraception le 26 septembre.
Et on peut rajouter le 28 septembre qui est la journée internationale pour la dépénalisation de l'avortement qui vient aussi souvent clore ce mois de septembre sur les journées un petit peu nationales, internationales.
Et donc le colloque du 30 septembre donné par le collectif Tout s'explique.
Exactement.
Merci beaucoup David Gouil.
L'invité de la rédaction avec Charlie Pless sur Radio Alpa.